Chapitre 24. Jusqu'à 10 heures du soir, Arkad Ivanovitch Svrigriolov courut bouger les tractires. Ayant retrouvé Katia dans un de ses endroits, il lui paya des consommations ainsi qu'aux joueurs d'orgue, aux garçons et à de petits clercs vers qui avait attiré une sympathie bizarre. Il avait remarqué que ces deux jeunes gens avaient le nez de travers, et que le nez de l'un était tourné à droite, tandis que celui de l'autre regardait à gauche. Finalement, il se laissa entraîner par eux dans un jardin de plaisance où il paya leur entrée. Cet établissement, décoré du nom de Vauxhall, n'était au fond qu'un café chantant de bas étage. Les clercs y rencontrèrent quelques collègues et se prirent de querelles avec eux. Peu s'en fallut que l'on en vint aux mains. Svidrigailov fut choisi comme arbitre. Après avoir écouté pendant un quart d'heure les récriminations confuses des parties en cause, il crut comprendre qu'un des clercs avait volé quelque chose et l'avait vendu à un juif, mais sans vouloir partager avec ses camarades le produit de cette opération commerciale. À la fin, il se trouva que l'objet volé était une cuillère à thé appartenant au Vauxhall. Elle fut reconnue par les gens de l'établissement, et l'affaire menait ça de prendre une tour grave si Svidrigailov n'avait désintéressé les plaignants. Il se leva ensuite et sortit du jardin. Il était alors près de 10 heures. Pendant toute la soirée, il n'avait pas bu une goutte de vin. Au Vauxhall, il s'était borné à demander du thé, encore parce que les convenances l'obligeaient à se faire servir quelque chose. La température était étouffante et de noirs nuages s'épaississaient dans le ciel. Vers 10 heures éclata un violent orage. Svidrigailov arriva chez lui trempé jusqu'aux os. Il s'enferma dans son logement, ouvrit son secrétaire d'où il retira tous ses fonds et déchira 2 ou 3 papiers. Après avoir mis son argent en poche, il pensa à changer de vêtements. Mais comme la pluie continuait à tomber, il jugea que cela n'en valait pas la peine. Il prit son chapeau et sortit sans fermer la porte de son appartement. Il se rendit droit au domicile de Sonia qu'il trouva chez elle. La jeune fille n'était pas seule, elle avait autour d'elle 4 petits-enfants appartenant à la famille Kapernaumov. Sophie Sievianovna leur faisait boire du thé. Elle accueillit respectueusement le visiteur, regarda avec surprise ses vêtements mouillés, mais ne dit pas un mot. À la vue d'un étranger, tous les enfants s'enfuirent aussitôt, saisis d'une frayeur indescriptible. Svidrigailov s'assit près de la table et invita Sonia à prendre place à côté de lui. Elle se prépara timidement à écouter ce qu'il avait à lui dire. « Sophie Sievianovna, commença-t-il, je vais peut-être me rendre en Amérique et comme, selon toute probabilité, nous nous voyons pour la dernière fois, « je suis venu régler quelques affaires. »« Eh bien, vous êtes allé aujourd'hui chez cette dame ?»« Je sais ce qu'elle vous a dit, inutile de me le raconter. » Sophia fit un mouvement et rougit. « Ces gens-là ont leurs préjugés. »« Pour ce qui est de vos sœurs et de votre frère, leur sort est assuré. »« L'argent que je destinais à chacun d'eux a été remis par moi en main sûre. »« Voici les récépissés. » À tout hasard, prenez-les. Maintenant, voici pour vous personnellement 3 titres de 5% représentant une somme de 3 000 roubles. Je désire que cela reste entre nous et que personne n'en ait connaissance. Cet argent vous est nécessaire, Sophie Sievianovna, car vous ne pouvez pas continuer à vivre ainsi. Mais vous avez eu tant de bonté pour les orphelins, pour la défunte et pour moi, balbutia Sonia, si je vous ai à peine remercié jusqu'à présent, ne croyez pas. Alors, assez, assez. Quant à cet argent, Arkadi Ivanovitch, je vous suis bien reconnaissante, mais je n'en ai pas besoin maintenant. N'ayant plus que moi à nourrir, je me tirerai toujours d'affaire. Ne m'accusez pas d'ingratitude si je refuse votre offre. Puisque vous êtes si charitable, cet argent... Prenez-le, Sophie Semyonovna, je vous en prie. Ne me faites pas l'objection. Je n'ai pas le temps de les entendre. Rodion Romanovitch n'a que le choix entre deux alternatives. Se loger une balle dans le front ou aller en Sibérie. À ces mots, Sonia se mit à trembler et regarda avec effarement son interlocuteur. Ne vous inquiétez pas, poursuivit Svidrigailov. J'ai tout appris de sa propre bouche et je ne suis pas bavard. Je ne le dirai à personne. Vous avez été bien inspiré en lui conseillant d'aller se dénoncer. C'est de beaucoup le parti le plus avantageux qu'il puisse prendre. Eh bien, quand il ira en Sibérie, vous l'y accompagnerez, n'est-ce pas? En ce cas, vous aurez besoin d'argent. Il vous en faudra pour lui, comprenez-vous? La somme que je vous offre, c'est à lui que je la donne par votre entremise. De plus, vous avez promis à Amalia Ivanovna d'acquitter ce qui lui est dû. Mais pourquoi donc, Sophie Semyonovna, assumez-vous toujours si légèrement de pareilles charges? La débitrice de cette Allemande, ce n'était pas vous, c'était Catherine Ivanovna. Vous auriez dû envoyer l'Allemande à tous les diables. Il faut plus de calcul dans la vie. Allons, si demain ou après-demain quelqu'un vous interroge à mon sujet, ne parlez pas de ma visite et ne dites à personne que je vous ai donné de l'argent. Et maintenant, au revoir. Il se leva. Saluez de ma part, Rodion Romanovitch. À propos, vous ferez bien, en attendant, de confier l'argent à M. Rasoumikhin. Vous connaissez sans doute M. Rasoumikhin. C'est un brave garçon. Portez-le-lui demain, ou enfin quand vous en aurez l'occasion, mais d'ici là... Tâchez qu'on ne vous le prenne pas. Sonia s'était levée aussi et fixait un regard inquiet sur le visiteur. Elle avait grande envie de dire quelque chose, de faire quelques questions, mais elle était intimidée et ne savait pas par où commencer. Ainsi vous allez vous mettre en route par un temps pareil? Oh, quand on part pour l'Amérique, est-ce qu'on s'inquiète de la pluie? Adieu, chère Sophie Sibionovna. Vivez, vivez longtemps. Vous êtes seule, vous êtes bien utile aux autres. À ce propos, faites donc mes compliments à M. Rasmouhirin. Dites-lui qu'Arkadi Ivanovitch Sadrialov le salue. N'y manquez pas. Quand il l'eut quitté, Sonia resta oppressée par un vague sentiment de crainte. Le même soir, Svidrigailov fit une autre visite fort singulière et fort inattendue. La pluie tombait toujours. À 11h20, il se présenta tout trempé chez les parents de sa future, qui occupait un petit logement dans Vassili Ostrov. Il eut grand-peine à se faire ouvrir, et son arrivée à une heure aussi indue causa dans le premier moment une stupéfaction extrême. On crut d'abord à une frasque d'homme ivre, mais cette impression ne dura qu'un instant, car quand il le voulait, Arkadi Ivanovitch avait les manières les plus séduisantes. L'intelligente mère roula auprès de lui le fauteuil du père infirme, et engagea aussitôt la conversation par des questions détournées. Jamais cette femme n'allait droit au fait. Voulait-elle savoir, par exemple, quand il plairait à Arkadi Ivanovitch que le mariage fût célébré? Elle commençait par l'interroger curieusement sur Paris, sur le high life parisien, pour le ramener peu à peu à Vassili Ostrov. Les autres fois, ce petit manège réussissait très bien. Mais dans la circonstance présente, Svidrigaïlov se montra plus impatient que de coutume et demanda à voir sur le champ sa future, quoiqu'on lui eût dit qu'elle était déjà couchée. Bien entendu, on s'empressa de le satisfaire. Arkady Ivanovitch dit à la jeune fille qu'une affaire urgente, l'obligeant à s'absenter pour quelque temps de Pétersbourg, il lui avait apporté 15 000 roubles et qu'il la priait d'accepter cette bagatelle dont il avait depuis longtemps l'intention de lui faire cadeau avant le mariage. Il n'y avait guère de liaison logique entre ce présent et le départ annoncé. Il ne semblait pas non plus que cela nécessitât absolument une visite au milieu de la nuit par une pluie battante. Néanmoins, si louches qu'elles puissent paraître, ces explications furent parfaitement accueillies, à peine même si les parents témoignèrent quelques surprises devant des agissements aussi étranges. Fort sobres de questions et d'exclamations étonnées, ils se répandirent par contre en remerciements des plus chaleureux auxquels l'intelligente mère mêla ses larmes. Svidrigaïlov se leva, embrassa sa fiancée, lui tapota doucement la joue et assura qu'il serait bientôt de retour. La fillette le regardait d'un air intrigué. On lisait dans ses yeux plus qu'une simple curiosité enfantine. Arkady Ivanovitch remarqua ce regard. Il embrassa de nouveau sa future. Il se retira en songeant avec un réel dépit que son cadeau serait à coup sûr conservé sous clé par la plus intelligente des mères. À minuit, il rentrait en ville par le pont de. La pluie avait cessé, mais le vent faisait rage. Pendant près d'une demi-heure, Svidrigaïlov battit le pavé de l'immense perspective, paraissant chercher quelque chose. Peu de temps auparavant, il avait remarqué, sur le côté droit de la perspective, un hôtel qui, autant qu'il s'en souvenait, s'appelait l'hôtel d'Andrinople. À la fin, il le trouva. C'était un long bâtiment en bois où, malgré leur avancée, on voyait encore briller de la lumière. Il entra et demanda une chambre à un domestique en haillons qu'il rencontra dans le corridor. Après un coup d'œil jeté sur Svidrigaïlov, le domestique le conduisit à une petite chambre située tout au bout du couloir sous l'escalier. C'était la seule qui fut disponible. Avez-vous du thé? Me demanda Svidrigaïlov. Oh, on peut vous en faire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, du veau, de l'eau-de-vie, des hors-d'œuvre? Apporte-moi du veau et du thé. Vous ne voulez pas autre chose? Demanda avec une sorte d'hésitation le laquais. Non. L'homme en haillons s'éloigna fort désappointé. Ce doit être quelque chose de propre que cette maison, pensa Svidrigaïlov. Oh, du reste, moi-même, j'ai sans doute l'air d'un homme qui revient d'un café chantant et qui a eu une aventure en chemin. Je serais pourtant curieux de savoir quelle espèce de gens logent ici. Il alluma la bougie et se livra à un examen plus détaillé de la chambre. Elle était fort étroite et si basse qu'un homme de la taille de Svidrigaïlov pouvait à peine s'y tenir debout. Le mobilier se composait d'un lit très sale, d'une table en bois verni et d'une chaise. La tapisserie délabrée était si poudreuse qu'on en distinguait difficilement la couleur primitive. L'escalier coupait en biais le plafond, ce qui donnait à cette pièce l'apparence d'une mansarde. Svidrigaïlov déposa la bougie sur la table, s'assit sur le lit et devint pensif. Mais un incessant bruit de voix qui se faisait entendre dans la pièce voisine finit par attirer son attention. Il se leva, prit la bougie et alla regarder par une fente du mur. Dans une chambre un peu plus grande que la sienne, il aperçut deux individus, l'un debout, l'autre assis sur une chaise. Le premier, en manche de chemise, était rouge et avait des cheveux crépus. Il objurguait son compagnon avec des larmes dans la voix. « Tu n'avais pas de position, tu étais dans la dernière misère. Et je t'ai tiré du bourbier, il ne tient qu'à moi de t'y replonger. » L'ami à qui s'adressaient ces paroles avait l'air d'un homme qui voudrait bien éternuer et qui n'y peut réussir. De temps en temps, il jetait un regard hébété sur l'orateur. Évidemment, il ne comprenait pas un mot de ce qu'on lui disait, peut-être même ne l'entendait-il pas. Sur la table où la bougie achevait de se consumer, il y avait une carafe d'eau-de-vie presque vide, des verres de dimensions diverses, du pain, des concombres et un service à thé. Après avoir considéré attentivement ce tableau, Svidrigaïlov quitta son poste d'observation et revint s'asseoir sur le lit. En apportant le thé et le veau, le garçon ne put s'empêcher de demander encore une fois s'il ne fallait pas autre chose. Sur la réponse négative qu'il reçut, il se retira définitivement. Svidrigaïlov se hâta de boire un verre de thé pour se réchauffer, mais il lui fut impossible de manger. La fièvre, qui commençait à l'agiter, lui coupait l'appétit. Il ôta son paletot et sa jaquette, s'enveloppa dans la couverture du lit et se coucha. Il était vexé. « Mieux vaudrait pour cette fois être bien portant, » se dit-il avec un sourire. L'atmosphère était étouffante, la bougie éclairait faiblement, le vent grondait au dehors. Dans un coin se faisait entendre le bruit d'une souris. Du reste, d'une odeur de souris et de cuir remplissait toute la chambre. Étendu sur le lit, Svidrigaïlov rêvait plutôt qu'il ne pensait. Ses idées se succédaient confusément. Il aurait voulu arrêter son imagination sur quelque chose. « C'est sans doute un jardin qu'il y a sous la fenêtre. Les arbres sont agités par le vent. Oh, que je déteste ce bruit d'arbres la nuit, dans la tempête et dans les ténèbres. » Il se rappela que tout à l'heure, en passant à côté du parc Petrovski, il avait éprouvé la même impression pénible. Ensuite, il songea à la petite Neva, et il eut de nouveau le frisson qu'il avait saisi tantôt quand, debout sur le pont, il contemplait la rivière. « Jamais de ma vie je n'ai aimé l'eau, même dans les paysages, » pensa-t-il. Et tout à coup, une idée étrange le fit sourire. « Il me semble qu'à présent, je devrais me moquer de l'esthétique du confort, et pourtant me voici devenu aussi difficile que l'animal qui a toujours soin de choisir sa place, en pareille occurrence. Si j'étais allé tantôt à Petrovski Ostrov, apparemment j'ai eu peur du froid et de l'obscurité. Il me faut des sensations agréables. Pourquoi pas éteindre la bougie ? Il la souffla. « Mes voisins sont couchés, » ajouta-t-il, ne voyant point de lumière dans la fente de la cloison. C'est maintenant, Maria Petrovna, que votre visite aurait de la propos. Il fait noir, le lieu est propice, la situation est exceptionnelle. Et justement, vous ne viendrez pas. Le sommeil continuait à le fuir. Peu à peu, l'image de Dounetchka se dressa devant lui et un tremblement soudain agita ses membres au souvenir de la scène qu'il avait eue avec la jeune fille peu d'heures auparavant. Non, allez, ne pensons plus à cela. Chose bizarre, je n'ai jamais beaucoup haï personne, n'ai même jamais éprouvé un vif désir de me venger de qui que ce soit. De mauvais signes, mauvais signes. Jamais non plus je n'ai été ni querelleur, ni violent. Mais là encore un mauvais signe. Mais que de promesses je lui ai faites tantôt. Mais m'aurait mené loin. Il se tut et serra les dents. Son imagination lui montra de nouveau Dounetchka, telle exactement qu'elle était quand, après avoir lâché le revolver, incapable désormais de résistance, elle fixait sur lui un regard épouvanté. Il se rappela quelle pitié il avait eue d'elle en ce moment, et comme il s'était senti le cœur oppressé. Oh, diable, encore ses pensées. Ne changeons plus à tout cela. Déjà, il s'assoupissait, son tremblement fiévreux avait cessé. Tout à coup, il lui sembla que, sous la couverture, quelque chose courait le long de son bras et de sa jambe. Il tressaillit. Oh, diable, c'est sans doute une souris, pensa-t-il. J'ai laissé le veau sur la table. Craignant de prendre froid, il ne voulait pas se découvrir ni se lever. Mais soudain, un nouveau contact désagréable lui effleura le pied. Il rejeta la couverture et alluma la bougie, puis frissonnant, il se pencha sur le lit et l'examina, sans y rien découvrir. Il secoua la couverture et brusquement, une souris sauta sur le drap. Il essaya aussitôt de la prendre, mais tout en restant sur le lit, elle décrivait des zigzags de divers côtés et glissait sous les doigts qui cherchaient à la saisir. Tout à coup, la souris se fourra sous l'oreiller. Svidrigailov jeta l'oreiller par terre, mais au même instant, il sentit que quelque chose avait sauté sur lui et se promenait sur son corps par-dessous la chemise. Un tremblement nerveux s'empara de lui et il s'éveilla. L'obscurité régnait dans la chambre. Il était couché sur le lit, enveloppé comme tantôt dans la couverture. Le vent grondait toujours dehors. « C'est crispant !» se dit-il avec colère. Il se leva et s'assit sur le bord du lit, le dos tourné à la fenêtre. Oh, « Il vaut mieux ne pas dormir » décida-t-il. De la croisée venait un air froid et humide, et sans quitter sa place, Svidrigailov tira à lui la couverture et s'en enveloppa. Il n'alluma pas la bougie. Il n'y pensait à rien, il ne voulait pas penser. Mais des rêves, des idées incohérentes traversaient son cerveau. Il était comme tombé dans un demi-sommeil. Était-ce l'effet du froid, des ténèbres, de l'humidité ou du vent qui agitait les arbres? Toujours est-il que ses songeries avaient pris une tournure fantastique. Des fleurs s'offraient sans cesse à son imagination. Il lui semblait avoir sous les yeux un riant paysage. C'était le jour de la Trinité, le temps était superbe. Au milieu des plates-bandes fleuries, apparaissait un élégant cottage dans le goût anglais. Des plantes grimpantes s'enroulaient autour du perron. Des deux côtés de l'escalier couvert d'un riche tapis s'étageaient des potiches chinoises contenant des fleurs rares. Aux fenêtres, dans des vases à demi pleins d'eau, plongeait des bouquets de jacinthe blanche qui s'inclinaient sur le hampe d'un verre cru et répandaient un parfum capiteux. Ces bouquets attiraient particulièrement l'attention de Svidrigaïlov et il aurait voulu ne pas s'en éloigner. Cependant, il monta l'escalier et entra dans une salle grande et haute. Là encore, partout, aux fenêtres, près de la porte, donnant accès à la terrasse, comme sur la terrasse elle-même, partout, il y avait des fleurs. Les parquets étaient jonchés d'une herbe fraîchement fauchée et exhalant une odeur suave. Par les croisées entr'ouvertes pénétrait dans la chambre une brise délicieuse. Les oiseaux gazouillaient sous les fenêtres. Mais au milieu de la salle, sur une table couverte d'une nappe de satin blanc, était placé un cercueil. Des guirlandes de fleurs l'entouraient de tous côtés, et à l'intérieur, il était capitonné de gros de nappes et de ruches blanches. Dans cette bière reposait sur un lit de fleurs une fillette vêtue d'une robe de tulle blanc. Ses bras étaient croisés sur sa poitrine et on les aurait pris pour ceux d'une statue de marbre. Ses cheveux d'un blond clair étaient en désordre et mouillés. Une couronne de roses ceignait sa tête. Le profil sévère et déjà roidi de son visage semblait aussi découpé dans du marbre. Mais le sourire de ses lèvres pâles exprimait une tristesse navrante, une désolation qui n'appartient pas à l'enfance. Svidrigaïlov connaissait cette fillette. Il y avait près du cercueil ni images pieuses, ni flambeaux allumés, ni prières. La défunte était une suicidée, une noyée. À 14 ans, elle avait eu le cœur brisé par un outrage qui avait terrifié sa conscience enfantine, rempli son âme angélique d'une honte imméritée et arraché de sa poitrine un suprême cri de désespoir, cri étouffé par les mugissements du vent au milieu d'une sombre et humide nuit de dégel. Svidrigaïlov s'éveilla, quitta son lit et s'approcha de la croisée. Après avoir cherché à tâtons l'espagnolette, il ouvrit la fenêtre, exposant son visage et son torse à peine protégé par la chemise aux atteintes du vent glacial qui s'engouffrait dans l'étroite chambre. Sous la fenêtre, il y devait y avoir en effet un jardin, probablement un jardin de plaisance. Là, sans doute, pendant le jour, on chantait les chansonnettes et on servait du thé sur de petites tables. Mais maintenant, tout était plongé dans les ténèbres et les objets ne se désignaient à l'œil que par des taches noires à peine distinctes. Durant 5 minutes, Svidrigaïlov, accoudé sur l'appui de la croisée, regarda au-dessous de lui dans l'obscurité. Ah, au milieu de la nuit retentirent 2 coups de canon. Ça, c'est un signal, la Neva monte, pensa-t-il. Ce matin, les parties basses de la ville vont être inondées. Les rats seront noyés dans les caves, les locataires des rez-de-chaussée, ruisselant d'eau, maugréants, opéreront au milieu de la pluie et du vent le sauvetage de leurs bibelots. Ils devront les transporter aux étages supérieurs. Mais quelle heure est-il ? Au moment même où il posait cette question, une horloge voisine sonna 3 coups. Dans 1 heure, il fera jour. Pourquoi attendre ? Je vais partir tout de suite et me rendre dans l'île Petrovski. Là-dessus, il ferma la fenêtre, alluma la bougie et s'habilla. Puis, le chandelier à la main, il sortit de la chambre pour aller éveiller le garçon, régler sa note et quitter ensuite l'hôtel. C'est le moment le plus favorable, on ne peut pas en choisir un meilleur. Il erra longtemps dans le corridor, long et étroit, ne trouvant personne. Il allait à appeler à haute voix quand, tout à coup, dans un coin sombre, entre une vieille armoire et une porte, il découvrit un objet étrange, quelque chose qui semblait vivant. En se penchant vers la lumière, il reconnut que c'était une petite fille de 5 ans environ. Elle tremblait et pleurait. Sa petite robe était trempée comme une lavette. La présence de Svidrigaïlov ne parut pas l'effrayer, mais elle fixa sur lui ses grands yeux noirs avec une expression de surprise hébétée. De temps à autre, elle sanglotait encore comme il arrive aux enfants qui, après avoir longtemps pleuré, commencent à se consoler. Son visage était pâle et défait. Elle était transie de froid, mais par quel hasard se trouvait-elle là? Oh, sans doute elle s'était cachée dans ce coin et n'avait pas dormi toute la nuit. Il se mit à l'interroger. S'animant tout à coup, la fillette commença d'une voix enfantine et grasseyante un récit interminable où il était question de maman et de tasses cassées. Svidrigaïlov crut comprendre que c'était une enfant peu aimée. Sa mère, probablement une cuisinière de l'hôtel, s'adonnait à la boisson et la maltraitait sans cesse. La petite fille avait cassé une tasse et, craignant une correction, elle s'était dans la soirée de la veille enfuie de la maison par une pluie battante. Après être restée longtemps dehors, elle avait fini par rentrer secrètement, s'était cachée derrière l'armoire et avait passé toute la nuit là, tremblant, pleurant, effrayée de se voir dans l'obscurité, plus effrayée encore à la pensée qu'elle serait cruellement battue. Et pour la tasse cassée et pour la fugue dont elle s'était rendue coupable. Svidrigaïlov la prit dans ses bras, la porta à sa chambre et l'ayant déposée sur son lit, se mit en devoir de la déshabiller. Elle n'avait pas de bas et ses chaussures trouées étaient aussi humides que si elles avaient trempé toute la nuit dans une mare. Quand il lui eut ôté ses vêtements, il la coucha et l'enveloppa avec soin dans la couverture. Elle s'endormit aussitôt. Ayant tout fini, Svidrigaïlov retomba dans ses pensées moroses. « Bof, de quoi me mêle-je encore ?» se dit-il avec un sentiment de colère. « Quelle bêtise !» Et dans son irritation, il prit la bougie pour se mettre à la recherche du garçon et quitter au plus tôt l'hôtel. « Peu, gamine » fit-il en lâchant un juron au moment où il ouvrait la porte. Mais il se retourna pour jeter un dernier coup d'œil sur la petite fille, s'assurer si elle dormait et comment elle dormait. Il souleva avec précaution la couverture qui cachait la tête. L'enfant dormait d'un profond sommeil. Elle s'était réchauffée dans le lit et ses joues pâles avaient déjà repris des couleurs. Toutefois, chose étrange, l'incarnat de son teint était beaucoup plus vif que celui qui se remarque à l'état normal chez les enfants. « C'est la rougeur de la fièvre, » pensa Svidrigaïlov. On aurait dit qu'elle avait bu. Ses lèvres purpurines paraissaient brûlantes. Soudain, il crut voir cligner légèrement les longs cils noirs de la petite dormeuse. Sous les paupières mi-closes se laisse deviner un jeu de prunelles malicieux, sournois, nullement enfantin. La fillette ne dormirait-elle pas et ferait-elle semblant de dormir? En effet, ses lèvres sourient, leurs extrémités frémissent comme quand on étouffe une envie de rire. Mais voilà qu'elle cesse de se contraindre, elle rit franchement. Quelque chose d'effronté, de provoquant, rayonne sur ce visage qui n'a plus rien de l'enfance. C'est le visage d'une prostituée, d'une cocotte française. Voilà que les deux yeux s'ouvrent tout grands. Ils enveloppent ce Svetlana Gailov d'un regard lascif et passionné. Il l'appelle, il rit. Oh, rien de répugnant comme cette figure enfantine dont tous les traits respirent la luxure. Quoi, à 5 ans ? Murmure-t-il en proie à une véritable épouvante. Est-ce possible ? Mais voilà qu'elle tourne vers lui, son visage enflammé. Elle lui tend les bras. Ah, maudite ! S'écrie-t-il avec horreur. Il lève la main sur elle et au même instant s'éveille. Il se retrouva couché sur son lit, enveloppé dans la couverture. La bougie n'était pas allumée, le jour se levait déjà. J'ai eu le cauchemar toute cette nuit. Il se mit sur son séant et s'aperçut avec colère qu'il était tout courbaturé, tout brisé. Au dehors régnait un épais brouillard au travers duquel on ne pouvait rien distinguer. Il était près de 5 heures. Svidrigailov avait dormi trop longtemps. Il se leva, remit ses vêtements encore humides, et sentant le revolver dans sa poche, il le prit pour s'assurer si la capsule était bien placée. Ensuite, il s'assit, et sur la première page de son carnet, écrivit quelques lignes en gros caractères. Après les avoir relues, il s'accouda sur la table et s'absorba dans ses réflexions. Les bouches régalaient de la portion de veau restée intacte. Il les regarda longtemps, puis se mit à leur donner la chasse. À la fin, il s'étonna de l'occupation à laquelle il se livrait, et recouvrant tout à coup la conscience de sa situation, il sortit vivement de la chambre. Un instant après, il était dans la rue. Un épais brouillard couvrait la ville. Svidrigailov cheminait dans la direction de la petite Neva. Tandis qu'il marchait sur le glissant pavé de bois, il voyait en imagination l'île Petrovski avec ses petits sentiers, ses gazons, ses arbres, ses taillis. Pas un piéton, pas un fiacre sur toute l'étendue de la perspective. Les petites maisons jaunes aux volets fermés avaient l'air sales et tristes. Le froid et l'humidité commençaient à donner le frisson au promeneur matinal. De loin en loin, quand il apercevait l'enseigne d'une boutique, il la lisait machinalement. Arrivé au bout du pavé de bois, à la hauteur de la grande maison de pierre, il vit un chien fort laid qui traversait la chaussée en serrant sa queue entre ses jambes. Un homme ivre-mort gisait au milieu du trottoir, le visage contre terre. Svidrigailov regarda un instant l'ivrogne et passa outre. À gauche, un beffroi s'offrit à sa vue. Bah, pensa-t-il, voilà une place à quoi bon aller dans l'île Petrovski. Comme cela, la chose pourra être officiellement constatée par un témoin. Et souriant à cette nouvelle idée, il prit la rue X. Là se trouvait le bâtiment que surmontait le beffroi. Contre la porte était appuyé un petit homme enveloppé dans un manteau de soldat et coiffé d'un casque grec. En voyant Svidrigailov s'approcher, il lui jeta du coin de l'œil un regard maussade. Sa physionomie avait cette expression de tristesse hargneuse qui est la marque séculaire des visages israélites. Pendant quelque temps, tous deux s'examinèrent en silence. À la fin, il parut étrange aux factionnaires qu'un individu qui n'était pas ivre s'arrêtât ainsi à 3 pas de lui et le fixa sans dire un mot. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-il, toujours adossé contre la porte. « Ben rien, mon ami, bonjour !» répondit Svidrigaïlov. « Passez votre chemin. Mon ami, je vais à l'étranger. » « Comment à l'étranger ?»« En Amérique. »« En Amérique. » Svidrigaïlov prit le revolver dans sa poche et l'arma. Oh, le soldat releva les sourcils. « Dites donc, hey, ce ne sont pas des plaisanteries à faire ici. »« Pourquoi pas ?»« Parce que ce n'est pas le lieu. » »« N'importe, mon ami, la place est bonne tout de même. »« Si on t'interroge, tu répondras que je suis parti pour l'Amérique. » Il appuya le canon de son revolver contre sa tempe droite. « On ne peut pas faire cela ici, c'est pas le lieu !» reprit le soldat en ouvrant des yeux de plus en plus grands. Svidrigaïlov pressa la détente.